Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team. Bonsoir Marie Zévan GP.
Salut, salut.
Comment ça va?
Oh, mais super bien. Comme tous les week-ends.
Oussem est là également. Ça va Oussem?
Ça va Thibaut. Bonsoir tout le monde. Salut Marie.
Salut Oussem.
Dans cette journée, ce dimanche 19 septembre, qui est aussi un jour de Paris sans voiture, le programme ce soir.
Merci. Ça te parle, Marie.
19h45, l'invité du RMC Sport Show, Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme. Les championnats du monde ont démarré aujourd'hui avec l'épreuve du contre-la-montre. Retour donc avec le boss des Bleus. Un Français va-t-il être champion du monde de MotoGP? Fabio Quartararo a fini deuxième du Grand Prix de Saint-Marin. Analyse avec notre spécialiste Paul Lafitte autour de 19h15. Mais avant ça, notre grande page rugby. Après trois journées, quels sont les premiers enseignements? Toulouse déjà au rendez-vous. Un rendez-vous que La Rochelle a visiblement loupé.
RMC Sport Show.
Et vous êtes avec nous évidemment sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le Direct Studio 3216 aussi, pourquoi pas, si vous voulez nous appeler pour commenter ce que vous entendez, poser vos questions. Vanné Oussem sur son t-shirt, dommage que vous ne voyez pas, c'est rigolo ce soir. Bref, il est 19h02 et juste avant le rugby, on parle foot parce qu'on a du direct en ce moment.
En Angleterre, la première ligue, la cinquième journée, derby londonien entre Tottenham et Chelsea, et c'est sous les yeux de Maureen Lehoux. Salut Maureen.
Salut messieurs, salut à tous. Encore un gros quart d'heure à jouer dans ce derby londonien. Et c'est Chelsea qui a pris l'avantage, qui mène 2-0 face à Tottenham grâce à des buts de Thiago Silva et de N'Golo Kanté, ou plutôt de Eric Dier sur l'action encore pour Chelsea là, avec une superbe tête sur corner mais bien repoussée par Lloris. Et finalement la frappe d'N'Golo Kanté a été contrée par Eric Dier. On va plutôt lui attribuer ce but contre son camp. En tout cas, ça se passe bien pour Chelsea, donc qui mène 2-0 et qui pourrait revenir à hauteur du leader Liverpool et une deuxième place en première ligue avec cette victoire si ça se confirme. 2-0 donc pour Chelsea face à Tottenham.
Merci Maureen, n'hésite pas s'il y a un but dans ce dernier quart d'heure, tu viens comme tu veux.
Et puis tiens, puisqu'on est sur le foot, l'affiche ce soir sur RMC à 20h45, ce sera PSG Lyon. Les compos, ce sera une heure avant, vers 19h45 dans le RMC Sport Show. Vous les aurez en direct dès qu'elles tombent. Rugby, le patron du rugby français l'année dernière, c'était qui?
Toulouse.
C'est Toulouse. Et ben cette année.
J'allais dire la porte, monsieur.
Figurez-vous.
On n'était pas branché sur
non,
le même
on était
truc.
Sur.
Tu peux
sur
dire la porte si tu veux.
Collectif, la porte, voilà. Moscato, si on veut aussi. Et ben cette année, c'est toujours Toulouse, le patron.
Et victoire du Stade, 17-15 dans les dernières secondes. Ça a été chaud, ça a été serré. Les Montpellierens auront des regrets, mais les Montpellier Toulousains auront été d'un froid pragmatisme cet après-midi. Trois entrées dans les 22 mètres. Montpellierens, deux essais et une pénalité de Thomas Ramos permet au Stade de s'imposer 17-15 ici au GGL et de continuer d'être invaincu dans ce championnat.
La une du RMC Sport Show.
Le commentaire de Julien Landry sur RMC avec l'analyse en prime de Roland Courbis.
Comme souvent.
Victoire 17-15 hier à Montpellier. 3 matchs, 3 succès, solide leader. Le Stade Toulousain est déjà à fond. Bonsoir Jeff Paturo.
Bonsoir, mais c'était pas Richard Dourde qui parlait?
L'analyse
très courte et très courte.
Il s'y connaît vraiment. Il avait dû parier sur quelque chose.
Roland, très peu. Jeff, rédacteur en chef rugby à RMC. Jeff, parfois il y a des cycles. C'est vrai qu'on voit des équipes qui gagnent et puis l'année d'après elles disparaissent un peu des radars. On le voit en foot avec Lille. Pour Toulouse, on n'est pas du tout sur ce scénario-là.
Non, le Stade Toulousain, c'est un peu l'équivalent du PSG, sauf que l'année dernière, le Stade Toulousain était champion, contrairement au PSG. Et c'est vrai qu'ils
boum,
sont...
le tir.
Non, mais c'est vrai.
Gratuit.
Champion de France, champion d'Europe pour hommes du Gomola. Ils ont débuté parfaitement la saison. Première journée de victoire contre La Rochelle, à La Rochelle. Carton la semaine dernière contre le RCT à domicile. Et cette fois, troisième victoire de la saison, 17-15. Déjà donc deuxième succès à l'extérieur depuis le début de saison pour le club de la Ville Rose. C'est franchement pas mal. Tout n'a pas été parfait, mais c'est très bon pour la suite, pour cette équipe.
Maryse, qu'est-ce que tu Comment comment tu trouves le début de saison du Stade Toulousain?
Je sais pas pourquoi on sent le gars qui a des petites nuits en ce moment.
Moi, pas du tout. Je dors très bien la nuit. Non, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu penses, Maryse. Mais si vous me laissez parler, s'il vous plaît.
On pourrait parler des questions avant.
Qu'est-ce que tu penses du début de saison toulousain? Je voulais parler de l'efficacité.
C'est impressionnant. L'efficacité, on la connaît. Le talent toulousain, on le connaît. Mais surtout, en plus des super couteaux que t'as dans cette équipe, on a l'impression que leur saison de l'année passée leur ont fait prendre un cran de confiance au-dessus. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que le talent de l'équipe, on le connaît, il est évident. Même si dans le top 14 et dans les clubs que t'as en face, t'as aussi du très gros talent. Mais là, aujourd'hui, on dirait une armée rangée, c'est-à-dire chacun est à son poste. Et non seulement chacun est à son poste, mais en plus, a beaucoup de créativité à son poste et ne doute de rien. Et ça se ressent. Et je pense que quand tu es en face, tu ressens ça. Moi, le match que j'ai vu la semaine dernière, c'est La Rochelle.
Ouais. La Rochelle, première journée, Toulon, la semaine dernière. Ouais.
La semaine dernière, c'était Toulon. On a eu la sensation qu'il pouvait y avoir un petit quelque chose en face, mais très rapidement, tu sens les gens qui baissent les armes parce qu'en face, t'as une machine, mais une machine.
Froid.
Pas dans le sens chirurgical ou autre, mais dans parce qu'il y a des frappes chirurgicales, on est bien d'accord et chacun est à sa place, mais surtout sur le plan de la confiance, c'est absolument terrifiant quand t'es en face, je pense.
Ouais, un excellent début de saison pour les Toulousains. Écoutons l'entraîneur des avants des champions de France et champions d'Europe, Jean Bouilloux, sur cet excellent début de saison.
Oui, c'est idéal, oui. Franchement, c'est idéal. On est à +9 aux Britanniques, je pense. Donc oui, c'est très bien. Maintenant, toujours pareil, un match à l'extérieur, il est validé quand on reçoit l'équipe derrière et qu'on gagne à domicile. Donc il y a encore du pain sur la planche. Après, c'est sûr qu'on préfère être dans cette situation-là que d'avoir perdu un ou deux matchs. D'autant qu'on se déplaçait deux fois à l'extérieur. Donc non, c'est très positif. On voulait engranger beaucoup de points. C'est vrai que 3 victoires d'affilée avec si peu de préparation, on aurait signé d'entrée, quoi.
Et Jeff, justement, tu vois, j'écoute, et c'est marrant parce que j'écoutais aussi l'interview d'après-match la semaine dernière face à Toulon. Et en fait, je pense que ce qui est le plus impressionnant, c'est l'exigence qu'ils ont envers eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont ils gagnent les matchs, ils ne sont jamais complètement satisfaits.
Ah non, c'est vraiment le discours hier. Hier, c'est vrai qu'ils font pas un match parfait. Les Toulousains, il y a pas mal d'indiscipline. Ils font tomber des ballons et ils se disent qu'ils peuvent faire beaucoup mieux encore, qu'il y a une marge de progression.
C'est pas de l'arrogance. J'ai gagné, mais voilà, je me la joue
il y a vraiment une rigueur et une ambition. Juste, c'est que le Stade Toulousain, champion, a repris très tardivement l'objectif cet été pour Hugo Mola et ses joueurs, c'était de bien récupérer. Très longues vacances, 6 semaines, un seul match de préparation. Donc c'est vrai qu'ils ont une marge de progression intéressante parce qu'ils ont repris le rugby plus tard que les autres.
Mais oui, c'est dingue. Hein.
Mais ouais, j'entends des termes depuis tout à l'heure de froideur, de clinique.
Chirurgical.
Si on appelait Didier Raoult.
Au-delà de Dr House, Jeff, Dr. House, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le changement entre la saison dernière et cette saison? Qu'est-ce qui a changé?
Écoutez ce que je viens de dire.
Non, Marie,
c'est ça l'ingrédient magique.
Notre dream team, mais Jeff est au quotidien avec les joueurs. Quel est le discours qui ressort de l'équipe?
Il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement. C'est la même rigueur, les mêmes ambitions, les mêmes joueurs à part. Certains qui ont arrêté, on pense à Johan Huget qui s'est blessé, ou Jérôme Queneau, mais pour le reste, il y a un joueur qui arrive en troisième ligne, notamment, c'est Anthony Jelon, qui va faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe, lui qui était capitaine de l'équipe de France. Mais justement, à Toulouse, on essaye.
Il y en a quand même un qui est parti, un certain Cheslin Kolbi.
Oui, mais bon, il n'a pas encore joué avec les autres, alors on en parle plus.
Non, mais quand même, mine de rien. Il se passait pas un week-end sans qu'on parle de Cheslin Kolbi.
Oui,
et tu as raison, aujourd'hui on n'en parle pas parce qu'on l'a oublié. L'équipe est tellement brillante que pour l'instant, il ne manque pas.
On en a parlé, les gars, parce que je viens de vous en parler. La victoire hier, difficile.
Et il est content.
Ouais, content. Contre Montpellier, hier, quand même, elle a été compliquée. Il y a le talent toulousain, on connaît les ingrédients.
Dès la première minute, quand même, le Stade Toulousain.
Mais ouais, hier, ils finissent à 13. Quand même, ils arrachent cette victoire. Il y a un aspect mental aussi qui est important et qui est au-dessus.
Alors, Maryse a dit la confiance. Est-ce que tu es d'accord avec elle?
Oui, c'est la confiance, c'est sans être désagréable, c'est les chiens de la casse. Les Toulousains, ils veulent toujours le titre. C'est dans le bon sens du terme. Ils ont vraiment les crocs, ils lâchent rien. Et c'est vrai qu'ils sont réduits à 13 à cause de cette règle de la carence, puisqu'il y a un joueur.
Je veux que t'en parles.
Oussem est passionné par les règles
de la carence. Non, mais la règle de la carence,
Maryse, tu sais ce que c'est que
la règle change.
Ah non, alors non.
Mais j'ai vu.
C'est vrai qu'il date de 2005-2006, qui a été mise en place par la Fédé. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de pilier droit, vous ne pouvez plus vous faire jouer les mêlées, il faut enlever un joueur supplémentaire dans votre équipe. Hier, à la 75e minute, il y a Tafili qui prend un carton rouge alors qu'il vient de rentrer. Donc on veut faire rentrer le pilier droit qui était sorti.
Je savais.
C'est pour équilibrer.
David Aynou qui doit rentrer à ce moment-là, sauf qu'il est blessé a priori. Bon, il est sorti en courant, c'est ce que disait les Montpellierains, donc c'est une drôle de blessure. Ils ne peuvent plus jouer les mêlées. simulé, plus de pilier droit. Et du coup, il faut enlever un joueur, Arthur Botman.
Mais c'est logique, en fait. C'est un carton. On ne peut pas te favoriser en t'autorisant à rentrer
non,
quelqu'un.
Montpellier reproche
sinon, c'est trop facile.
Bah oui, évidemment.
Montpellier reproche un peu l'honnêteté, c'est
oui,
ça.
Oui, parce que Montpellier était supérieur en mêlée dans les minutes précédentes. Mmh. Et donc, est-ce qu'il aurait fallu siffler un essai de pénalité, d'où la règle de la carence à ce moment-là.
Juste, je reviens, donc on peut acter le fait que chien de la casse, ça peut être sympathique.
Mais moi, je comprends. J'utilise aussi cette expression, pas dans le sens rap, tu vois, mais dans le sens d'avoir les crocs.
Si un jour je te traite de chien de la casse,
ce sera avec beaucoup d'amour. Quoi.
Ah oui, mais, ça, oui mais,
c'est marrant, mais j'utilise aussi moi. Marie, j'ai quelqu'un qui est accrocheur.
Vous êtes en présence de quelqu'un qui ne va pas beaucoup dans des vestiaires de sport, donc c'est pas, faut pas lui en vouloir.
C'est pas faux, mais devant la télé, on entend ce genre de choses également ou à la radio.
Tu peux avoir certains champions auxquels tu dis vous êtes un vrai chien de la casse qui te mettent un coup de boule derrière.
Oui.
Hein,
c'est même ça, c'est un peu la radio loin d'eux. En
oui,
fait.
Oui, oui, à distance.
Et que je n'habite pas à Toulouse comme vous.
Bien sûr. Il est 19h10, c'est le RMC Sport Show avec Jeff Paturo, Marie Zévon GP, avec Oussem. On conclut sur les Toulousains ce gros début de saison avec une info maison. Jeff, info transfert, comme si c'était pas déjà assez fort comme ça les Toulousains.
Oui, bah c'est Melvin Jaminet, l'arrière de Perpignan, la révélation cet été avec l'équipe de France, 22 ans, 3 sélections, lui qui avait été très bon contre les Australiens, contre les Wallabies, et bah le Stade Toulousain est en pôle pour le recruter. On rappelle que Melvin Jaminet est encore sous contrat jusqu'en 2024, qu'il va falloir sortir un gros chèque pour acheter.
Il est à Perpignan.
Il a joué un match de top 14 la semaine dernière, le seul de sa carrière.
Il y a de l'argent à Toulouse.
Il y a de l'argent à Toulouse puisque Colby est parti.
Ah oui.
Mais il y a des joueurs qui sont en fin de contrat aussi. On pense à Maxime Médard, puisque c'est ce que disait Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, c'est que l'économie est compliquée pour les clubs du rugby depuis l'épisode du Covid. Donc, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent ou des départs. Mmh. Et c'est vrai que le Stade Toulousain, en ce moment, est sur un recrutement galactique ou XL, comme vous préférez, puisqu'il y a Pierre-Louis Barassi de Lyonnais qui
galactique,
est courtisé, Arthur Vincent, le Montpellierin est aussi courtisé, ou encore le Rochelais Arthur Retière. Ces trois-là sont en fin de contrat.
Et en plus des jeunes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont déjà en train de préparer l'après. Et ça, c'est remarquable. C'est-à-dire qu'ils sont en ce moment dans l'une de leurs plus belles périodes sportives, même s'il y en a eu d'autres avant, il y a une dizaine d'années. Et ils sont déjà en train de se projeter sur la suite. C'est magnifique.
Ouais, Toulouse qui est sur une lancée exceptionnelle, la lancée de la saison dernière. En revanche, pour La Rochelle, c'est la cata finaliste du dernier top 14 face à Toulouse, finaliste de la dernière Champions Cup face à Toulouse. Merci, c'est bien. Et possiblement dernier du top 14 ce soir.
On aurait dû le laisser seul et rien répondre.
J'y ai cru, c'était parti pour. Les Rochelais ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison. La défaite, la troisième hier, c'était à Clermont, 23-22. Leur entraîneur, Ronan Nogara, a une explication claire à cette défaite.
C'est assez simple process, cette défaite. Quand tu manques precision et tu manques encore de precision et tu manques encore de precision, tu ne mérites pas. C'est pas nécessaire de chercher trop profond. C'est clair pour tout le monde. Dans quelques moments clés, on a relâché la pression trop facilement et boum, match perdu.
Jeff, tu me vois arriver avec ma question. Cette fois-ci, c'est pas à cause de l'arbitrage, si?
Tu dis encore ça parce que Ronan Nogara a eu des propos un peu sévères il n'y a pas longtemps.
Voilà, je dis juste que la semaine d'avant.
Il y a deux semaines.
La semaine dernière, j'étais
au Racing après la défaite de La Rochelle à Paris, la Défense Arena. Il n'y a aucun entraîneur de La Rochelle qui est venu parce que je pense qu'il ne voulait pas dégoupiller.
Oui. Mm. Oui.
Donc, non, hier, c'est vrai qu'il faut rappeler que le match a été disputé dans des conditions de rêve. De la pluie,
du vent.
Le rugby
qu'on aime. Il y a eu pas mal de ballons tombés. 17, si je ne me trompe pas. C'était vraiment une guerre de tranchées. Et les Rochelais arrachent malgré tout le point de bonus défensif en fin de match, vraiment dans les dernières secondes. C'est bien et pas bien. Pas bien parce que c'est leur troisième défaite de la saison. Bien parce qu'on voit qu'il y a du caractère dans cette équipe. Mais c'est vrai qu'on attend mieux de la part des Rochelais qui ont un statut à tenir. Maintenant, ils sont parmi les favoris de la compétition. Et c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas encore bien enclenché la saison. Et c'est pareil. Juste, on disait que les Toulousains avaient repris tard. Les Rochelais n'ont pas disputé le moindre match amical cet été.
Exact.
Donc, c'est pareil. La mise en pression va monter.
Mais moi, je ne suis pas inquiète quand tu dis c'est catastrophique. Ah non, c'est pas catastrophique. C'est juste que un début de saison comme ça pour un champion, on parlait de confiance tout à l'heure, ça t'entame sérieusement la confiance. Mais quand tu regardes qu'ils perdent d'un point à l'extérieur face à une équipe rude dans des conditions rudes qui conviennent pas mal d'ailleurs aux Clermontois.
Ah oui, mais factuellement, ils sont quasiment derniers.
Oui, mais
ils sont quasiment derniers, mais il y a eu trois matchs. Et il faut voir la facture qu'a donné ces trois matchs. Donc moi, je trouve aussi qu'il y a une super combativité. Ça manque de précision. C'est pas encore tout à fait.
Me dis pas que tu vas sortir la défaite encourageante.
Non, non.
Ah, non.
Je dis juste que c'est pas encore ajusté, qu'il y a du travail à faire, mais il n'y a pas tout à jeter là-dedans.
Il doit être plus réaliste.
Voilà, exactement.
Et il faudra peut-être juger un peu plus précisément la semaine prochaine, puisque le quatrième match, après un début, il y avait un calendrier calendrier compliqué, effectivement. Là, c'est Biarritz à domicile la semaine prochaine. Donc, faudra surveiller La Rochelle sur ce match-là.
Je suis sûr que ça va être un gros match parce que c'est quand même très important cette histoire de pas jouer du tout de matchs amicaux avant de commencer. Ils sont en train de monter en pression et clairement, le match contre Clermont, ça a été un gros combat. Donc, ça va les remettre rapidement en état de marche.
19h15, le RMC Sport Show, l'action du week-end en top 14. Et on aurait aimé ne pas en avoir en parler ce soir. C'est un plaquage terrible, celui du castrer Rino Peter sur le Bordelais Maxime Lucu. Jeff, est-ce que tu peux décrire déjà ce plaquage horrible?
Déjà, les gens, vous pouvez nous écouter à la radio, mais allez le voir au moins sur les réseaux sociaux, celui-là, parce qu'il est quand même très, très impressionnant, puisqu'on est à la 64e minute du match entre Castres et l'Union Bordeaux-Bègles. Et là, il y a Maxime Lucu, le mêlée de l'UBB, qui tape une chandelle. Sauf qu'il est encore en l'air,
il est dans les appuis.
Et là, il y a le deuxième ligne sud-africain qui arrive, mais lancé à toute vitesse, toute puissance. Il ne l'enroule pas, il y va avec un peu avec l'épaule, forcément. C'est vraiment très impressionnant. Et il s'est excusé aujourd'hui. Parce que.
J'ai l'impression que tout le monde s'excuse très vite.
Disons qu'il a entendu, il va être entendu normalement par la commission discipline, pas mercredi là, le suivant, le 29. Donc c'est toujours bien de faire des excuses avant de reconnaître son erreur. Il a dit j'aimerais m'excuser auprès de Maxime Lucu. Normalement, il va bien, et c'est vrai que Maxime Lucu va bien. C'est le principal. On rappelle que.
Oui, rapidement, qu'est-ce qu'il risque?
Il risque, la palette est très large, puisque dans les sanctions prévues par la Ligue, ça peut aller entre 2 et 52 semaines. Selon des gens que j'ai interrogés, ça pourrait être plutôt 12 semaines ou autour de ça.
On rigole pas dans le rugby.
C'est pas le football.
On rigole pas, en même temps, l'éventail est large quand même.
Oui, c'est très large.
En tout cas, après le match, Christophe Furios, l'entraîneur de l'UBB et donc de Maxime Lucu, a dit, je cite, j'avais jamais vu ça, il peut le tuer, a dit Christophe Furios. Et Maxime Lucu, Lucu, a donné de ses nouvelles dans la soirée hier sur Twitter. Il a dit, merci à tous pour vos messages de bienveillance, tout va bien, toujours de
Oui. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane.
Oui, non, mais attends.
Debout.
Honnêtement, voilà. s'il a cette voix-là, c'est qu'il va pas bien.
On espère qu'il est quand même en meilleure forme que le Renault qu'on adore.
S'il a cette voix-là, il faut qu'il fasse tout de suite un check-up.
En tout cas, on a vu partout
les gens qui disaient non, il va bien. Mais on n'en sait rien s'il va bien. On ne sait pas les conséquences d'un choix comme ça.
C'est lui qui l'a dit qu'il
va bien. Non, il va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de fracture, mais à moyen terme ou à long terme, c'est le genre de choc qui marque un bonhomme et qui peut le marquer durablement quand même.
Cette troisième journée de top 14 s'achève ce soir avec deux monuments du rugby français qui sont face à face. Toulon, Stade français, 21h05 et ce sera commenté sur RMC par Julien Richard qui est déjà au Stade Mayol. Julien, salut, t'es rentré?
Salut, effectivement, je suis rentré. Salut Maryse, salut à toutes et à tous. C'est meilleur qu'à Clermont hier.
Vas-y, fais-nous rêver.
Il y a un peu de vent quand même, il y a même pas mal de vent, mais au moins il pleut pas.
Deux monuments ce soir que tu vas commenter qui vont pas fort en début de saison, parce que je disais tout à l'heure, La Rochelle est quasiment dernier, il y a juste Toulon et le Stade français derrière en fait.
Ouais, duel de dernier de la classe, et pourtant c'est une affiche qui a de la gueule, comme on dit, entre le RCT et le Stade français, deux équipes qui ont raté leur début de saison, et une plus que l'autre d'ailleurs. Toulon a fait match nul sur son premier match ici à Mayol contre Montpellier, et puis derrière il y a eu, vous en avez parlé, cette lourde défaite à Toulouse 41-10, et le Stade français c'est deux défaites, et deux défaites assez inquiétantes. Il y a eu celle dans le derby à Jambouin contre le Racing 36-21, et puis la défaite à Bordeaux, là aussi assez large, contre l'UBB 37-10. Donc deux équipes qui ont largement besoin de se rassurer, et on voit par exemple la semaine toulonnaise qui peut nous donner quelques indications, puisque Patrice Collazo a amené ses joueurs sur une sorte de mini stage, une mini mise en place de deux jours au vert, à pas très loin, à Saint-Tropez, mais pour resserrer tout ça et essayer de
Saint-Tropez.
Oui, alors pas sur le port, hein,
non, ça, je te vois. Là, c'est pas trop le genre de Patrice Collazo.
Dommage qu'on fasse pas de mise au vert RMC.
C'était plutôt studieux, et je pense que t'aurais pas trop aimé ce genre de mise au vert avec la prépa physique à
j'imagine,
fond.
J'imagine bien.
Et ça aurait fait un peu. Ouais, je pense que tu marcherais plus. Mais
est-ce que tu peux nous dire rapidement, Julien, on a plus beaucoup de temps, s'il y a des absences majeures à signaler?
Alors, il y a pas mal d'absences toujours à Toulon, mais il y a une attraction, même plusieurs attractions. Une curiosité, c'est la première de Léoné Nakarawa, le Fidjien, ancien joueur du Racing, avec ses nouvelles couleurs du rugby club toulonnais, champion olympique de rugby à 7. Enfin, un joueur assez incroyable, mais on va voir dans quel Léoné Nakarawa on aura chez nous.
C'est le chef de chorale, c'est ça?
Pardon?
C'est le chef de chorale. C'est celui qui a tourné sur les réseaux sociaux cet été avec ses magnifiques.
Non. Il était champion olympique à Rio, hein, pas.
Ah d'accord. Non. Parce qu'il y en a un qui arrive dans le championnat. Là,
ouais,
qui,
mais c'est justement, j'allais t'en parler. Vai Nicolo, l'autre Fidjien de champion olympique de Toulon, ben lui, il est pas là. Okay. Et de dernière minute, parce qu'il s'est cassé le doigt. Enfin, il s'est luxé un doigt lors de la mise en place hier, donc il sera absent. C'est dommage, on aurait bien aimé le voir effectivement. Retour de Gabin Villière et de Facundo Isa qui vont faire beaucoup de bien également au rugby club toulonnais. À Paris, il y a aussi pas mal d'absents, mais on aura l'occasion d'en reparler. L'info, c'est que Léo Barré, 19 ans seulement, première titularisation en top 14, sera l'ouvreur du Stade français préféré à Joris.
Ouh la vache.
Merci beaucoup, Julien Richard.
Et juste pour
Toulon Stade français,
sur le match
21h05.
De Julien Richard, Jeff. Ça s'inscrit dans le challenge Christophe Dominici entre les deux équipes. Il y aura un hommage rendu à l'ancien international.
Ah oui, que ce sont les deux clubs.
Il y a le 11 Domi inscrit sur la pelouse. Aujourd'hui, il y aura des hommages. Il y aura pas mal d'anciens joueurs qui seront
présents. Hommage. À tout à l'heure, Julien. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la musique derrière.
Ouais,
et puis, Mayol.
C'est un mélomane, vous le savez.
Pas mal, ouais. On aime la musique. Merci, Jeff Paturo, d'avoir été avec nous. Le rugby, donc 21h05 ce soir sur RMC. La fin de cette troisième journée de top 14.
Et le match qu'on suit, c'est dans le RMC Sport Show. C'est un match de football anglais, la première ligue, la cinquième journée. Tottenham, Chelsea, on est dans le temps additionnel, Maureen Lou.
Et 2-3 pour Chelsea avec ce but de Rudiger, une passe en retrait de Werner et la frappe à rater qui trompe Hugo Lloris. Tottenham a complètement pris l'eau dans cette deuxième période. Chelsea qui mène 3-0. Il reste quelques secondes dans cette partie, mais vraiment, il n'y aura pas eu match en deuxième période. L'arbitre qui regarde sa montre, ça ne devrait plus tarder. Mais Chelsea donc 3-0 et qui donc revient à hauteur du leader Liverpool grâce à cette victoire 3-0 face à Tottenham, même s'il reste quelques secondes encore à jouer.
Merci Maureen.
19h21, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse Evangépé. D'ailleurs, on parlera plus français avec les compos dès qu'elle tombe en direct dans le Sport Show côté parisien et côté lyonnais. Mais la MotoGP est à suivre dans la deuxième période du Sport Show. Quartararo,
un Français peut-il être champion du monde, monsieur.
Ça sent bon, on en parle dans un instant avec Paul Lafitte.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grande.
Vous écoutez RMC, merci, ça fait plaisir. C'est le RMC Sport Show, en direct jusqu'à 20h, comme tous les dimanches, avec Maryse Evangépé, notre membre de la Dream Team. Oussem, à suivre dans une dizaine de minutes le VAR du RMC Sport Show.
Et c'est la nouvelle chronique qu'on vous concocte avec Thibaut et Maryse. On veut savoir ce que Maryse pense d'un événement qui est passé un peu inaperçu ce week-end. Vous allez voir cette semaine.
Oui.
On a un bel événement avec de beaux artistes français.
Bah oui, et pourtant, des Français qui gagnent à Roland Garros, Benoît Paire, Gaël Monfils.
C'était pas arrivé depuis Yannick Noah.
Oui, restez avec nous. Dans quelques instants, la MotoGP, Fabio Quartararo qui se rapproche du titre mondial. Mais d'abord, la minute foot dans 1h30, dernier match de la 6e journée de Ligue 1 sur RMC. L'affiche PSG Lyon.
RMC Sport Show,
la minute foot.
Une vingtaine de minutes, les compos, dès qu'elles tombent en fait, hein, à peu près une heure avant le coup d'envoi.
Jeannot est prévenu, il vient quand il veut.
Mais en attendant, c'est Anthony Reich qui est dans le RMC Sport Show, à bord du Parc des Princes. Anthony, salut, raconte-nous.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
L'ambiance salut, autour du parc, alors là
messieurs,
vous avez
messieurs,
DJ Snake dans les oreilles, Toto, le réalisateur du...
qui est supporter marseillais.
Phil prête. Collins revient ce soir, Toto, enlève nous ça, voilà. C'est ça que les supporters parisiens entendront. Anthony, est-ce qu'il y a déjà du monde? J'imagine que oui. Gros match, grosse ambiance ce soir aux abords du parc.
Alors, aux abords du parc, l'ambiance n'est pas très électrique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un match de championnat, j'ai vu vraiment rarement autant de monde aussi tôt dans la journée. Dès 17h, il y avait déjà plus d'un millier de personnes aux abords du tapis rouge. Énormément de supporters hispanophones, énormément de médias venus des quatre coins du monde, notamment en Amérique du Sud ou en Espagne, qui ne viennent que pour un seul homme. C'est évidemment Léo Messi. La première de la star argentine, c'est pour ce soir au Parc des Princes. Souvenez-vous, il avait été présenté sur la pelouse du parc, mais pour l'instant, il n'a pas pu jouer avec son nouveau maillot sur cette belle pelouse du Parc des Princes, un parc qui sera comble et qui n'aura Dieu que pour lui. Ça sera donc sa grande première. Encore un doute quand même pour savoir s'il sera aligné avec Kylian Mbappé et Naïf Papi qui souffre un orteil de ces derniers jours, mais tout le monde n'a Dieu que pour Léo Messi. Le bus s'est passé il y a une petite dizaine de minutes et tous les gens qui étaient amassés au bord le long des barrières n'attendaient que lui, peut-être de le voir à la sortie.
Ouais, va falloir penser à payer le forfait quand même, monsieur Reich. Hein.
Oui, parce qu'on ne t'entendait pas très bien sur la fin.
Pas très bien.
T'imagines toi si tu arrives au travail avec tous les gens qui crient comme ça ton nom à l'entrée du. Ce serait exceptionnel. Hein.
Ça arrive un peu parfois.
C'est vrai. Ouais, oui, c'est la police.
Petit stagiaire un peu zélé. Les compos, merci beaucoup, Anthony Reich. On retrouvera Jeannot Rességuier à l'intérieur du parc. Ça captera bien. Il sera branché en filaire. Ça captera beaucoup mieux. Pour les compos officiels, sachant qu'on a la compo de l'Olympique Lyonnais. Elle n'est pas encore officielle, mais Loïc Tanzi nous l'a donnée avec une surprise.
Oussem Aouar n'est pas titulaire.
Les compos officiels dans 20 minutes sur RMC. Place à la moto dans le RMC Sport Show. Les semaines passent et l'exploit se rapproche. On n'est plus très loin d'avoir un Français champion du monde de MotoGP.
Le pilote Yamaha pour revenir au forceps en position encore une fois de recherche de vitesse. Le petit prodige de ce MotoGP calé dans les échappements de la Ducati. Mais Pecco Bagnaia va certainement s'imposer. Il va s'imposer devant Fabio Quartararo au terme d'une superbe course. Pecco Bagnaia qui ne lâche rien, mais Fabio Quartararo est un grand. Il devrait devenir champion du monde avec cette deuxième place. Il compte, on le rappelle, 48 points d'avance avec 4 grands prix à disputer. Il n'aura pas de balle de match au Grand Prix des Amériques, mais encore une fois la science de Fabio Quartararo qui aura géré dans un premier temps avant de déposer Jack Miller et de venir terminer vraiment à quelques encablures de Pecco Bagnaia.
La deuxième période du RMC Sport Show.
La moto pour lancer la deuxième période du RMC Sport Show. La MotoGP, c'est en direct sur RMC tous les dimanches avec Paul Lafitte aux commentaires et dans le Sport Show ce soir. Rebonjour Paul.
Rebonsoir Thibaut, rebonsoir à tout le monde et bonsoir à Maryse évidemment.
Fabio Quartararo, parti troisième de ce Grand Prix de San Marin. Il termine deuxième, la place sur le podium. On arrive en fin de saison, c'était l'objectif. Il y a un peu de gestion maintenant qui rentre en compte. Hein.
Oui, de la gestion effectivement Thibaut, car il le disait avant la course, il visait au minimum un podium, voire la victoire si elle pouvait se présenter. Mais c'est vrai que dès les premiers tours de ce Grand Prix de Misano, on a vite vu les Ducati prendre, la poudre d'escampette avec rapidement 2 secondes d'avance pour le leader Bagnaia, 1 seconde d'avance également pour Jack Miller. Et dans cette position-là, c'est vrai que Fabio Quartararo a dans un premier temps géré les adversaires qui lui collaient au train. On pense notamment à Jorge Martin qui a chuté dans le troisième tour. Et puis au fur et à mesure de la course, Fabio Quartararo a produit un premier effort pour revenir sur Jack Miller, doubler Jack Miller. Et pendant une dizaine de tours, il y avait entre 2 secondes et 2 secondes 5 d'avance pour Pecco Bagnaia. Et là, on se disait que la puissance de la Ducati ferait certainement la différence. Eh bien, on s'est trompé car Fabio Quartararo a la course dans le sang. Et même s'il veut gérer son championnat du monde, il reste maintenant 4 courses avant la fin de la saison. Eh bien, il s'est mis à grignoter son retard, dixième par dixième, à recoller au basque de Pecco Bagnaia pour terminer. On l'a vécu en direct sur AMC dans ce dernier tour de folie. Oui. Revenir à seulement 2 dixièmes du pilote italien pour échouer à cette deuxième place, qui est quand même un très très bon résultat pour le pilote niçois.
Paul, Thibaut, je veux bien qu'on parle de gestion, mais en conférence de presse, quand j'entends ce que dit Fabio Quartararo et qui dit « j'ai perdu pas mal de temps au début », c'est pas de la gestion, c'est qu'il reconnaît qu'à un moment donné, il s'est trompé dans sa stratégie, non Paul ?
Non, il s'est pas trompé, Oussem. La Ducati est en train de s'améliorer de course en course. On l'avait vu sur le circuit d'Alcanis la semaine dernière en Aragon, qui était d'ailleurs la première victoire du pilote officiel Ducati. Sur ce circuit de Misano, qui tourne beaucoup, on le rappelait lors de la présentation, avec 10 virages à droite et 6 virages à gauche. Eh bien, la Ducati est tout simplement meilleure. Elle le prouve sortie après sortie. Et c'est pour cette raison que Fabio doit s'adapter. Sayama, on le c'est moins puissante, sa Yamaha a moins de tracking sur les longues courbes rapides, et donc c'est pour ça que Pecco Bagnaia fait cette petite différence. Rappelons tout de même que c'est un élève de Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, et qu'il est en train de prouver aux yeux du MotoGP qu'il est capable de s'imposer, et pourquoi pas d'aller jouer le titre face à Fabio Quartararo.
La relève italienne avec Rossi qui va s'arrêter à la fin de la saison. Alors Paul, projetons-nous, il reste 4 courses avant la fin de cette saison, 48 points d'avance pour notre Français Quartararo sur la Ducati de Francesco Bagnaia. Les courses qui arrivent, favorables plutôt à qui ?
Ouais, alors favorable. Le prochain, ce sera le Grand Prix des Amériques, Thibaut, le 3 octobre, hein, une coupure de 15 jours, ouais, de 2 semaines. Il n'y aura pas de balle de match pour le pilote niçois, car bien, il aurait fallu pour ça que Fabio Quartararo compte plus de 50 points d'avance au classement pour avoir une première balle de match. Ce n'est pas le cas puisqu'il compte 48 points d'avance sur l'Italien. Le Grand Prix des Amériques sera plutôt typé pour les Ducati, même si Fabio Quartararo le précisait en conférence de presse d'après course. Il aime ce circuit des Amériques, avec notamment une très très belle bagarre face à Marc Marquez, c'était il y a 2 saisons. Après, le Continental Circus reviendra sur les terres italiennes pour un nouveau Grand Prix à Misano le 24 octobre. Le 7 novembre, ce sera à Portimao pour le Grand Prix d'Algarve. Et on se rappelle qu'en début de saison, Fabio Quartararo avait remporté ce Grand Prix du Portugal. Et enfin, la grande finale aura lieu à Valence, où là, c'est un circuit typé Yamaha, typé Fabio Quartararo, sur lequel il s'est déjà imposé. Alors, on va dire que c'est du 50-50 au vu des performance à répétition des Ducati, mais avec sa science de la course, avec sa soif de victoire et avec ce titre qui lui tend les bras, on voit mal comment le pilote niçois, qui est l'un des pilotes, hein, messieurs et Maryse, qui chute le moins, hein, depuis le début de la saison, seulement 4 chutes pour Fabio Quartararo, autant dire que le titre lui tendrait les bras. Ce sera peut-être à Misano, peut-être au Portugal, ou peut-être en apothéose sur le circuit de Valence en Espagne.
Et puis on rappelle qu'il a eu la bonne idée de faire le trou en début de saison et qu'il compte quand même 48 points d'avance au classement à 4 Grands Prix de la fin. Une victoire, c'est 25 points, donc Bagnaia peut prendre au mieux 100 points, mais si Quartararo marque des gros points derrière, ça devrait le faire. Merci beaucoup Paul, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain Grand Prix, le Grand Prix des Amériques.
Petit chiffre sympa, Fabio Quartararo est entré dans l'histoire de la MotoGP, il devient le Français qui a fait le plus de podiums, son 19e podium en carrière.
Devant Christian Sarron,
très sympa, très sympa comme stat. Merci beaucoup Paul, un mot de foot anglais.
Le résultat est entériné pour la 5e journée de Première Ligue. Tottenham s'est incliné à domicile face à Chelsea 3-0, et comme le disait Maureen Lowe tout à l'heure, Chelsea est en tête du classement du championnat à égalité de points avec Liverpool et Manchester United.
Des fumigènes craqués à Toulouse en toute légalité, c'est le reportage du RMC Sport Show, et un double français vainqueur à Roland-Garros avec des streamers. On vous explique tout ça, c'est le VAR du RMC Sport Show dans un instant.
RMC Sport Show,
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand
et Maryse Evangépé, comme tous les dimanches jusqu'à 20h, votre rendez-vous sport du week-end à la radio le dimanche soir. Une heure pour revenir sur l'actu forte de ce week-end. Dans quelques instants, notre invité Thomas Vauclair.
On va parler vélo.
Le manager de l'équipe de France, les mondiaux de cyclisme sur route ont démarré aujourd'hui. Mais d'abord, comme toutes les semaines désormais dans le RMC Sport Show, c'est l'heure de l'arbitrage vidéo. Une actu, une histoire que vous n'avez peut-être pas vu passer ce week-end, mais qui mérite pourtant qu'on s'y attarde.
La VAR du RMC Sport Show.
Hier, un peu avant 16h, j'étais tranquillement dans ma voiture, Thibaut, vers Roland-Garros, une zone géographique assez sympa pour se promener. Il y a de la verdure, des grands espaces.
Joli bois.
Et oui, il y a pas mal de gens sympas aussi qui traînent. Et je vois qu'autour du stade, il y a une longue file d'attente qui se forme. Alors je me dis, le tournoi français, c'était en juin dernier, je m'en rappelle, c'est Djokovic qui s'est imposé. Donc réflexe du mec curieux qui n'est pas très cultivé, je vais demander à Google pour voir ce qui se passe à Roland-Garros.
Et c'est vrai, Oussem, qu'un samedi de septembre au Bois de Boulogne, d'habitude, il n'y a pas de longue file d'attente. Hein. Les gens sont plutôt discrets. Mais hier, il y avait donc 2000 personnes à Roland-Garros pour assister gratuitement à un match de double un peu particulier. Gaël Monfils et un streamer contre Benoît Paire et un autre streamer.
Normal.
Domingo et Zerator. C'est leur pseudo, est-ce que vous connaissez Domingo et Zerator?
Ça fait très Pokémon, mais moi je connaissais. Marie, tu connaissais?
Non, pas du tout, mais ça m'intéresse pas du tout.
Alors, en tout cas,
mais c'est pas grave, hein. Franchement, du moment que ça plaît
à beaucoup. Ça plaît à beaucoup, parce qu'ils cartonnent sur les réseaux sociaux où ils diffusent leur contenu en direct sur Twitch ou sur YouTube. Et hier, ils se sont donc retrouvés sur le court Philippe Chatrier à jouer au tennis avec Monfils et Paire. L'idée date d'octobre dernier. C'était pendant le The Event, c'est un projet caritatif qui a réuni plein de streamers célèbres et ils ont récolté beaucoup d'argent d'ailleurs. Et un défi avait été lancé à l'époque par Domingo, l'un des deux. Si les donations atteignaient une certaine somme, il organisait un match à Roland-Garros avec des pros. La Fédération Française de Tennis a entendu, pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et elle a donc proposé d'accueillir tout ce beau monde à Roland-Garros hier. Un événement regardé en direct par près de 90 000 personnes sur Twitch. Près de 800 000 vues à l'heure où on parle en replay. Alors pour la petite histoire, la paire Monfils Zerator a gagné en 3-7. Hein, même en match exhibition,
Benoît Paire, il n'y arrive pas.
Trouve le moyen de perdre. Okay. Alors rappelez-vous, il y a quelques mois, il y avait déjà eu le combat de boxe entre Floyd Mayweather et un YouTuber.
Eh oui, Paul Logan.
Ouais, alors Maryse, tu es ce soir, comme tous les dimanches. La commission de discipline du RMC Sport Show, et tu dois répondre à cette question. Le sport est-il obligé de passer par le divertissement pour continuer à exister?
Alors, obligé, non, mais par contre, c'est très intelligent. Je trouve que c'est, si on le fait de façon intelligente, c'est une excellente jonction entre attirer l'attention de jeunes gens, par exemple, qui s'intéressent pas du tout au sport, les amener tranquillement vers ton sport et les faire sortir de leur zone de confort et aller chercher un autre type de public. Aujourd'hui, toutes les fédérations ont du mal à aller chercher de nouveaux publics. Là, en l'occurrence, au début, j'étais partagée parce que j'avais pas vu le match. Je me disais, qu'est-ce que c'est encore tout ça? Et surtout parce que, ben, moi, c'est, je suis totalement pas du tout
le sport pro, c'est pour les sports pro pour toi.
Non, c'est pas ça. C'est que ne m'intéressant pas au monde du streaming, si tu veux, je savais pas qui étaient les deux gars. Okay. Donc je sais pas qui sont célèbres, donc je sais pas que les gosses l'adorent, donc je sais pas que les gosses d'ailleurs, parce que il y a beaucoup aussi de gens un peu plus âgés qui sont complètement dingues de streaming, mais justement quand tu mêles ces deux univers qui ont énormément de public puisque ce sont des gars qui ont plus d'un million d'abonnés et que tu vas faire un match, tu vas forcément intéresser du monde. Parce que les gens sont pas dupes, c'est de la rigolade, on est là pour passer un bon moment, on s'éclate, et ça va pas plus loin que ça. Au départ, j'avais un a priori, parce que par contre, là, la mascarade Floyd Mayweather contre Logan Paul contre Jake Paul, et inversement, le frère,
Jake pro contre YouTuber, Paul, et ça t'avait pas plu.
Parce que le frère avait fait ça aussi contre un basketteur qu'il a rétabli en un coup, là. Séché.
Ça m'a pas plu du tout,
parce que c'était monté comme un vrai combat avec, tu sais, cette culture clash, tu vois, de un peu imité de certains rappeurs qu'on ne nommera pas qui se mettent sur la bouche dans un Sephora du côté de l'aéroport. C'est un peu le même genre, tu vois, c'est-à-dire qu'on se clash, vas-y, je te défie, et on se casse la bouche, alors qu'en fait, c'est du catch, c'est aussi un spectacle, et on prend les gens pour des cons. Ça, j'aime pas ça. Et en plus, c'est dangereux.
Mais un événement comme hier sur le tennis, ça met en valeur
ce sport. Et je trouve que beaucoup de fédérations devraient s'en inspirer. Parce que tu reviens par exemple aujourd'hui, qui regarde le tennis de table? Honnêtement, tu regardes le tennis de table à part
le tennis de court,
tennis de table.
Ok, le tennis de table.
J'enlève la magnifique parenthèse des JO.
On n'est pas beaucoup à regarder.
Est-ce que tu regardes le tennis de table? Est-ce que je regarde le tennis? Non. Par contre, il y a un truc que je me souviens encore quand j'étais jeune, c'était les spectacles de Secrétin Pucard. Tu sais, quand il s'amusait, c'était les spectacles sportifs qu'avait monté Jacques Secrétin, qui est un immense champion, et qui s'amusait un coup à faire du ping-pong sur une mini table. Mais ça a surtout complètement démocratisé le tennis de table, et les gens se sont mis à regarder le tennis de table.
D'ailleurs, je repense à un truc. J'ai pas vu ressortir une vidéo il y a pas longtemps sur Twitter d'une sauteuse en hauteur française dans une émission de divertissement.
Mais c'est pas faux.
J'ai vu ça cette semaine.
C'est vrai.
Merci Maryse, en tout cas.
Je te redonne un exemple aussi très rapidement. Les sprinteurs qui courent contre des chevaux, qui courent contre des jeux de domino. Moi, j'ai vu quand même Chourandi Martina à vos marques prêt top avec un jeu de domino qui court en même temps, qui devait finir avant lui. Enfin, ça démocratise.
Oui, donc toi, le divertissement.
Et les Globetrotters, c'était quoi? C'était pas un spectacle? Et ça a pas été les prémices de la NBA? Donc non, c'est
toi,
très bien.
L'arrivée des streamers et des youtubeurs.
La commission de discipline a tranché ce soir dans le RMC Sport Show. C'est oui, le VAR du RMC Sport Show reviendra dimanche prochain, 19h42. Dans quelques instants, Thomas Voeckler, manager de l'équipe de France de cyclisme, après le reportage d'RMC Sport Show.
RMC Sport.
Reportage.
Des fumigènes autorisés dans un stade de football. Ça s'est passé.
Mon Dieu, mais où va le monde?
Hier, tu fais bien les chevaliers du fiel, je trouve. Au stadium de Toulouse avant le match de Ligue 2 contre Grenoble.
Et oui, on le sait d'habitude, l'utilisation des fumigènes est interdite. Les instances ont toujours lutté contre ça et ça peut aller loin pour les supporters fautifs puisque certains ont été sanctionnés, je ne parle pas de Thibaut, d'une interdiction de stade. Mais là, tout était encadré, parfaitement encadré. Reportage Wilfried Templier.
Oui, il était 14h50 au stadium de Toulouse hier. Les supporters choisis pour l'occasion sont placés au pied du virage Brice-Taton. Chacun est à 5 mètres du reste du public, muni d'un gant anti-chaleur et d'un fumigène. Ils sont même passés par un briefing le matin même du match avec un artificier professionnel. Les fumées blanches se mélangent. Nathan est membre du groupe des Indians Tolosa. Il fait partie des supporters autorisés à allumer un fumigène. Et il raconte la manière dont il a vécu ça.
Moi, ça a vraiment fait bizarre. Cette sensation, quand t'es ultra, t'appartiens dans un groupe et tout, d'avoir ce fumigène dans un stade et de ne rien risquer, c'est une grande avancée pour le mouvement ultra en France.
Parce qu'il faut savoir que pour plus de clémence, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel incitait depuis des années les clubs à porter plainte en cas de présence de fumigène en tribune. Et à Toulouse, 4 supporters avaient été perquisitionnés chez eux au petit matin par la police pour avoir craqué des fumigènes lors d'un match face à Dijon. Interpellation, jugement et au final interdiction de stade. Certains le sont encore, un véritable traumatisme à l'époque. Alors pour ne plus revivre ça, les ultras toulousains ont bien voulu participer à l'opération. Alex, le président des Indians.
On est forcément contre la répression qui peut toucher les gens qui utilisent des fumigènes. Donc quand on nous propose un projet comme ça, avec la permission d'utiliser des fumigènes sans risque derrière, on peut pas dire non, on peut pas refuser, donc on est content de s'engager avec le club là-dedans. Après, c'est vrai que c'est très encadré et très restrictif, mais pour nous, on considère ça comme peut-être un premier pas pour quelque chose de mieux à l'avenir vis-à-vis des fumigènes. Donc il faut y participer, il faut peut-être faire des concessions pour participer à ça.
C'est le club de Toulouse qui est à l'origine de ça, qui a lancé l'idée au mois de juillet lors d'une réunion avec les ultras. Après plusieurs échanges, le TFC a tendu la main à ses supporters que le directeur général Olivier Jaubert qualifie d'exemplaire.
On leur a dit, écoutez, travaillons sur une confiance mutuelle. Nous, on ne peut pas vous défendre si vous craquez des fumigènes, parce que c'est illégal. Et tant que c'est illégal, nous, on ne sera jamais de votre côté. Par contre, on est prêt à travailler. Et on va travailler pour essayer d'aller vers, peut-être un jour, une zone de tir encadrée à l'intérieur des tribunes, dans laquelle les supporters qui auront envie, sous, entre guillemets, protection des agents de sécurité, extincteurs, etc., pourront craquer des fumigènes.
Mais il a fallu convaincre les autorités publiques, avoir le feu vert de la préfecture, de la direction départementale de la sécurité publique, et bien sûr, de la Ligue de football professionnelle. C'est le responsable de la sécurité du club de Toulouse, Régis Dupont, qui s'est chargé du dossier. Et cela a abouti à cette expérimentation qui a plu aux ultras toulousains, en dépit du côté très encadré de l'opération, comme le dit Nathan.
Moi, pour moi, ça ne me dérange pas, parce que justement, c'est vraiment un premier pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inédit. C'est inédit en France. On n'a jamais vu ça. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, même si, comme tu dis, c'est très encadré, on ne l'a jamais vécu. Et moi, j'ai été vraiment très content et très honoré de faire partie de cette expérimentation.
Car c'est vrai, d'un point de vue philosophique, cet encadrement très poussé va un peu à l'encontre de l'esprit ultra, mais chacun a fait un pas l'un vers l'autre. Alors, c'est le seul volet prévu pour le moment, mais comme le dit Olivier Jaubert, on espère une suite.
En espérant qu'un jour, on accepte le principe, comme il y a eu une évolution vers les tribunes debout dans certains clubs, le retour des tribunes debout, bah, que demain, dans quelques semaines ou quelques mois, et j'espère pas quelques saisons, j'espère avant, on arrive à avoir des zones de tir encadrées dans les tribunes pour les supporters qui souhaitent.
Pour que ça agisse comme une sorte de traînée de poudre au sein des clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
Le reportage de Wilfried Templier à Toulouse, 19h46. Le foot, justement, de retour dans un quart d'heure avec l'after qui arrive, consacré à ce Paris Saint-Germain-Toulouse. L'affiche de la 6e journée de Ligue 1 à 20h45. Les compos devraient tomber d'une minute à l'autre.
C'est Paris Saint-Germain-Lyon, hein, pas Toulouse.
J'ai dit quoi?
Toulouse.
Non, j'ai pas dit ça.
Mais après, si tu veux vraiment rester sur Toulouse, tu peux. Hein.
J'ai pas dit ça. On le refait, on n'est pas vas-y. En direct, c'est pas grave.
Allez, vas-y, 6e journée.
PSG-Toulouse. PSG-Lyon ce soir, 20h45. Les compos dans un instant et l'invité du RMC Sport Show, Thomas Vauclair.
RMC Sport Show, Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
19h48, merci d'écouter votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec Marie-Zévan GP jusqu'à 20h. Après, ce sera Oussem.
L'after autour de Gilbert Bribois et Nicolas Villas.
Les compos autour de Paris Saint-Germain-Lyon, 20h45, ne sont pas encore tombés. On vous les donne en direct du Parc des Princes dès qu'on les a. Mais d'abord, place au cyclisme.
L'invité du RMC Sport Show.
Et on prend la direction de la Belgique où les championnats du monde ont débuté aujourd'hui. Une semaine d'épreuves qui s'achèveront en beauté par la course en ligne dimanche prochain où Julien Alaphilippe remettra en jeu son maillot magnifique arc-en-ciel.
Ah oui.
Et nous sommes en direct avec notre envoyé spécial sur place, Arnaud, qui va nous faire vivre cette semaine. Arnaud Souk, salut Arnaud.
Messieurs, dames, bonsoir.
Et nous sommes en direct avec le manager de l'équipe de France. Bonsoir Thomas Vauclair.
Bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup bonsoir. D'être en direct sur RMC ce soir. Alors Thomas, conserver le maillot de champion du monde, c'est possible? L'italien Filippo Ganna l'a fait aujourd'hui. Il était tenant du titre sur le contre-la-montre. Il a encore gagné aujourd'hui. Ça doit donner des idées, non?
Il y a une petite précision à apporter. C'est qu'aujourd'hui c'était donc le contre-la-montre. Donc oui. Le contre-la-montre, oui. C'est pas la course en ligne. Donc c'est vrai que là, il y a pas. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de stratégie. Donc oui, on s'en doutait que Filippo Ganna était ultra favori. Il a tenu son rang. Non, le mot d'ordre, et je sais pas de la communication, je le pense sincèrement, c'est que Julien Alaphilippe, on vient pas pour défendre le titre, il remet son titre en jeu. On est en Belgique, on est chez Wout van Aert, donc voilà, c'est ma communication, mais c'est ce que je pense sincèrement.
Thomas, vous êtes le manager de l'équipe de France, le premier Français, Rémi Cavagna, a fini 14e. Est-ce qu'on est satisfait ou est-ce qu'au contraire c'est une petite déception?
Non, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. Rémi, je rappelle pour les auditeurs, il est l'année dernière, il était quand même Il a été vice-champion d'Europe du contre-la-montre.
Oui.
Il a gagné deux contre-la-montre cette année au niveau World Tour, c'est-à-dire avec les mêmes coureurs qui étaient engagés aujourd'hui. Après, c'est un contre-la-montre et c'est clair qu'on attendait mieux. Lui, le premier. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a fait une approche parfaite en termes de reconnaissance. Il a fait un très beau chrono, mais il n'était pas assez bien physiquement. Il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que ça. Donc, ouais, déception, oui. Mais voilà, Rémi est encore jeune, il progresse. Dans son équipe de Conan Quickstep également, il met des moyens pour le faire progresser. Et c'est un travail sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est médaillable, comme qui peut faire 14e ou 22e, quoi.
Thomas Vauclair, le manager de l'équipe de France de cyclisme, est en direct dans le RMC Sport Show ce soir. On se projette donc sur dimanche prochain, cette course en ligne, qui n'est pas le contre-la-montre. Donc, Arnaud Souk sur place, une question concernant l'équipe de France et Julien Lafilippe.
Oui, Thomas, bonsoir. On t'imagine mal partir sans Julien Alaphilippe, évidemment, tu l'as dit, il remet son titre en jeu. Il y a Anthony Turgis, il y a Christophe Laporte, il y a Florian Sénéchel qui sont tous des coureurs typés flandriens. Déjà, est-ce que tu nous confirmes que les quatre seront bien dans ta sélection dimanche prochain? Et comment tu vas articuler un petit peu les forces autour de ces quatre bonhommes-là s'ils y sont bien?
Bah, je vais vous faire plaisir, je vais même vous en donner un cinquième. Il y aura Benoît Cosnefroy aussi, voilà. Donc, ouais.
Voilà.
Mais
c'est une info.
Pour ça, il y a pas besoin non plus de. Voilà, Benoît Cosnefroy marche très fort. Il a terminé troisième des championnats d'Europe il y a 10 jours. C'est un circuit qui lui convient parfaitement. Après, pour ce qui est comment on articule, moi je le sais. Je le sais, mais après c'est une course de vélo. Et donc, bien entendu, je suis en contact régulier avec tous les coureurs, leurs entraîneurs, leurs managers. Et la sélection sera annoncée mardi. Pourquoi mardi? Parce qu'il y a encore une course, il y a le Grand Prix de Denain. Il peut y avoir encore des risques de chute et tout ça. Il faut en tenir compte. Et comment ça va s'articuler? Si je vous le disais là à l'antenne, c'est que je fais mal mon job, quoi. Donc ça, bien entendu que je...
Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça.
Essayez de me soutirer des infos, mais non.
C'est notre objectif.
Ouais. Temps, vous
non, mais non, mais sans ça, Thomas, ce que je voulais dire surtout, c'est que on a quand même quatre bonhommes là qui, pour parler au grand public, sont des coureurs qui sont typés flandriennes, oui, oui, qui sont capables de faire des grandes performances. Ça veut dire que l'équipe de France va aussi s'avancer.
Qui sont typés
en outsider, on sera pas loin d'être favori.
J'ai pas compris ce que tu as dit. Qui sont typés quoi?
Flandriennes.
Typés flandriens pour les courses flandriennes.
Ah, ils sont taillés pour les.
Hier, il y a eu une course en Belgique qui a emprunté une partie d'ailleurs du circuit du championnat du monde de dimanche. C'est un Français, Florian Sénéchal, qui a gagné. Mercredi dernier, il y a Christophe Laporte qui a gagné le Grand Prix de Wallonie. Donc il y a deux choses. Ambition, oui, mais surtout humilité. Parce que quand on regarde ce qu'il y a en face, faut pas s'enflammer parce que les mecs, c'est vrai que les neuf qui seront là, pour info, toutes les équipes sont huit, mais grâce au numéro de Julien Alaphilippe l'an dernier de l'équipe de France, mais c'est quand même Julien qui a fini le travail, on a droit à un coureur supplémentaire. Mais ouais, en gros, bien sûr qu'on a des très hautes ambitions, mais beaucoup d'humilité parce que quand on regarde sur le papier ce qu'il y a en face, ça serait vraiment prendre la grosse tête de dire on est favori. Mais par contre, c'est clair que j'ai un petit peu des nœuds au cerveau. Les neuf coureurs ne sont pas encore désignés. Il y en a pas mal de désignés, plus que ceux que je vous ai dit. Mais eux sont au courant. Et puis voilà, donc rendez-vous mardi soir pour la Fédération française de cyclisme communiquera pour les neuf coureurs.
Bon bah Arnaud, tu peux continuer à poser 2-3 questions aux coureurs. Maintenant on a les noms, ça y est.
Non, on en a mardi, 5, c'est voilà, déjà pas mal.
5 sur 9. Juste Thomas, on a Romain Bardet qui a un forfait de dernière minute. Il est malade. Est-ce qu'on se dit que quand on voit l'équipe de France, qu'elle a fait cette équipe de France sur les championnats d'Europe, il y a une espèce de solidarité qui se dégage et que on peut retirer un nom comme Bardet, l'équipe reste très performante et avec des ambitions de podium et mieux.
Moi, j'aime pas vivre avec le passé, mais il y a 10 jours, enfin il y a une semaine, ce qu'on a vécu au championnat d'Europe, franchement, le résultat de Benoît 3e, c'est bien sûr c'est top, mais l'état d'esprit qu'il y a eu, alors qu'il y avait beaucoup de coureurs qui sont leaders dans leur, quasiment tous qui sont leaders dans leur équipe respective. Bah c'est une réussite quoi, vraiment un état d'esprit.
Comment?
Oui, Maryse, vas-y.
Comment on fait une saison avec successivement l'espace d'un mois et demi, Jeux Olympiques, Championnat d'Europe et Championnat du Monde? On est obligé justement de préparer certains pour une échéance et d'autres pour d'autres?
Oui, surtout. faut selon les parcours. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en équipe de France sur route, il y a que trois échéances les années olympiques, donc les Jeux olympiques, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et les parcours sont différents. Donc c'est pas du tout les mêmes coureurs qui sont appelés à disputer les JO, à part les mecs qui sont multicartes, un peu comme Cosnefroy ou Alaphilippe. C'est pas super compliqué pour eux, j'ai envie de dire. Ils ont un très gros programme dans leur équipe de marque. Et très peu de rendez-vous en équipe de France. On n'est pas dans un sport co où il y a des rassemblements, des stages. Non, donc il faut composer avec tout ça. Et comment on fait? On gère, quoi. On gère et on essaye surtout d'avoir. Et ça, j'y tiens. Et ça marche super bien depuis plus d'un an d'ailleurs, ouais. Avec les responsables, les managers des équipes professionnelles, parce que on n'est pas dans le foot. Hein. Il n'y a pas le même nombre de zéros à la fin du mois. Hein. Mais c'est quand même les managers des équipes professionnelles qui mettent les coureurs à disposition. Ouais. Donc j'ai un grand respect pour eux parce qu'ils jouent énormément le jeu depuis 2 ans. Quoi.
En tout cas, merci beaucoup Thomas Vauclair d'avoir été en direct ce soir sur RMC. On vous souhaite de bons championnats du monde et on souhaite bonne chance à cette équipe de France. À bientôt Thomas.
Merci.
Et merci également à Arnaud Souk sur place. Arnaud qu'on retrouvera toute la semaine pour nous faire vivre ces championnats du monde de cyclisme. 19h56.
Les compos de l'affiche de la 6e journée de Ligue 1 sont tombés. C'est la Minute Foot.
RMC Sport Show.
La Minute Foot.
En direct du Parc des Princes, on retrouve Jeannot Rességuier. Jeannot, les compos sont tombés et on parle d'un 4 fantastique. Les 4 fantastiques du côté du Paris Saint-Germain.
Ah mais on parle surtout de deux équipes très offensives avec le Paris Saint-Germain. Oui, Donnarumma dans les buts. Nuno Mendes, première titularisation à gauche de la défense. Kerrer à droite, Hakimi sera sur le banc des remplaçants. Kimpembe, Marquinhos pour la charnière. Au milieu de terrain, Gueye, Herrera en récupérateur relayeur. Messi derrière Kylian Mbappé. Neymar à gauche, Di Maria à droite. Donc déjà, la pluie tombe sur le Parc des Princes pour fêter ça. 4 attaquants, 4 joueurs à vocation offensive pour le Paris Saint-Germain et autant presque pour les Lyonnais. Lopez dans les buts, Malo Gusto sur le côté droit puisque Dubois est blessé à gauche. Emerson, la charnière Boateng, Deneyer, Kakré, Shaqiri, Guimaraes, Paqueta, Slimani, Toko et Cambi. C'est Aouar qui en fait les frais par rapport à l'équipe qui s'est imposée à Glasgow face aux Rangers. L'arbitre Clément Turpin. Si tout ce qui est sur le papier là, d'un côté comme de l'autre, fonctionne à merveille pour les deux coachs, à savoir Mauricio Pochettino et Peter Boss, on va se régaler.
Jeannot, t'as fait une minute pile.
Bravo.
Voilà, pour coller à ce jingle, c'est magnifique. On a appelé la minute, c'est énorme.
Il est excellent.
Jeannot, merci beaucoup. Le match est à 20h45. L'analyse des compos, c'est dans l'after dans un instant, autour de Gilbert Bribois. Marie Zoussem, merci, bonne soirée.
Du coup, tu me laisses pas 15 secondes pour dire qu'il y a eu un record du monde de dénivelé qui a été battu par Marion Sicco avec 15 339 mètres à l'Alpe d'Huez.
Non, je te les laisse pas. Mais merci Marie.
Bravo à Marion.
Mais tu l'as fait quand même. L'after arrive.
T'as vu comme elle est maline.
Ciao.
RMC, l'after foot.
Le match.